Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Giscal et je suis accompagné aujourd'hui de l'amiral Armbar. Salut l'amiral, comment vas-tu?
Salut Giscal, je vais très bien, salut tout le monde et merci de m'accueillir sur le supplément SmackDown. Comme à la WWE, on fait le check-up aussi des chroniqueurs à catch-up, donc je suis là pour cette fois-ci.
Exactement, voilà, pas d'IRM cette semaine, exceptionnellement, mais remplacé par un chroniqueur d'un talent au moins équivalent. Hein. Et donc ça nous fait très plaisir de t'avoir pour ce check-up, comme tu dis, c'est le check-up à catch-up aussi. Donc on en profite, on fait bouger les lignes. Et puis donc cette semaine, partie 2 à SmackDown du grand shake-up de cette draft 2.0. Et pour ce faire, nous étions à Boston, Massachusetts, au TD Garden des Celtics, le 11 avril 2017. Et au menu ce soir, Amiral, nous avions une émission qui change de nom, eh oui, une nouvelle reine qui arrive au Royaume Bleu, des agents de voyage qui ne rigolent plus du tout, Mojo et Gronk qui font le show, Nakamura qui oublie d'enlever son protège-dents et la ceinture du main event qui n'est peut-être pas celle que l'on pourrait croire. Et nous allons commencer tout de suite avec ce que je viens de mentionner, c'est l'émission qui change de nom cette semaine. Et pourquoi est-ce qu'elle change de nom? Puisque on ouvre le bal à SmackDown avec la musique de nul autre que Kevin Owens. Kevin Owens, le champion des États-Unis est là. Donc un trade évidemment attendu hein, suite à l'arrivée de Dean Ambrose à Raw la veille. Mais néanmoins, ça fait plaisir. Ça m'a permis de me souvenir à quel point la musique d'Owens était vraiment cool. Donc c'est un Owens en habit de lumière hein, qui fait son arrivée dans le A-Show, hein, c'est normal. Donc pour l'occasion, il s'est fraîchement rasé, costume cravate. Grosse pop hein, pour Kevin Owens, mais ouais. qui tue sa pop immédiatement en se moquant du public. Très très fort, très habile dans son jeu avec le public. Il joue évidemment sur le fait qu'il détient le titre des États-Unis, mais qu'il vient du Québec, hein, de Montréal. Il en profite même pour se faire un petit passage en français. Hein, ça fait toujours hurler de rage les Américains. Et donc, il nous annonce que maintenant SmackDown est le Kevin Owens Show. Petit chip hit sur l'équipe des Boston Bruins hein, de NHL. Et il finit par être interrompu par le Baron Corbin qui s'avance. Baron Corbin qui rentre dans le ring et puis qui lui annonce qu'il a battu Ambrose il y a pas longtemps. Il se trouve que ce dernier Ambrose a battu Owens la veille, donc inutile de préciser à la foule ici présente ce qui se passerait si les deux se rencontraient. Petite montée d'adrénaline entre les deux. Owens évidemment n'y croit pas, le traite de delusional, de complètement aveuglé, et s'en vient incroyable Sami Zayn, la deuxième arrivée déjà de ce show en provenance d'Euro. La tête d'Owens est absolument exceptionnelle, hein, il n'en croit pas ses yeux. Et donc une tête impayable, et son ennemi de toujours, son ennemi juré qui l'a suivi jusqu'à SmackDown. On pourra discuter de ça, mais en tout cas, toujours est-il que Zayn arrive, bon, ça se charrie, rien de bien méchant, et un quatrième larron s'invite à la danse, c'est AJ Styles. Donc AJ Styles qui a probablement la pop de la soirée, absolument stratosphérique. AJ Styles qui dit que, évidemment, tout ça n'a pas d'importance. Ce show, ce segment n'est pas à propos du Kevin Owens Show, n'est pas à propos de Sami Zayn ni de Corbin. Et le plus important, c'est lui, parce que SmackDown, c'est la maison qui AJ Styles a construit. Blabla, les deux, les quatre, donc la tension continue de monter un petit peu. Et Daniel Bryan arrive, on va crescendo, hein, le public est absolument en feu. Et donc Daniel Bryan qui nous précise que tout ce beau monde pourrait avoir un match pour le titre US, ce serait pas mal. Sauf que le problème, c'est qu'on est bloqué, par Payback, puisque comme vous le savez, Jericho et Owens vont s'affronter à Payback pour le titre US. Donc ce qui fait que pour le moment, le titre US ne peut pas être défendu à SmackDown, il le sera après Payback. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en attendant, on peut faire un triple threat entre les trois Gugus pour déterminer le titre, enfin la position de number one contender, et Donc nous allons avoir en main event AJ Styles contre Sami Zayn contre Baron Corbin pour le titre de number one contender. Et on nous annonce également que le vainqueur de Payback sera, quoi qu'il arrive, officiellement un membre de SmackDown, donc sorte de stipulation en plus, ce qui fait que ce qui assure à la ceinture US de rester à SmackDown. Alors, beaucoup de choses dans cet opener, des arrivées, des annonces, un main event. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon cher Amiral ?
Je trouvais ça très cool dans l'ensemble. Comme tu as dit, Kevin Owens qui débarque d'entrée de show. Je trouve que généralement, de toute façon, le shake-up manque cruellement de mise en scène. Hein, on n'a pas de segment backstage, on ne voit pas les GM en train de discuter, en train de négocier. Donc, c'est juste les stars qui arrivent. Donc, autant commencer très fort avec une grosse star du show, de l'autre show qui débarque, Kevin Owens. Donc, un peu peut-être repackagé, du moins visuellement, son costard, même s'il a commencé à le mettre avec quelques semaines à Raw. Là, on voit un petit changement. Donc, c'est aussi l'occasion de replacer les superstars lorsqu'elles changent de brand dans un gimmick un peu plus dans un sens ou l'autre. Bon. Donc, là, c'est effectivement, il a fait un peu de cheap hit, comme tu l'as dit, en se moquant de l'équipe locale, en jouant le côté « je suis pas américain, vous les américains, vous êtes des nazes, vous parlez qu'une seule langue, etc. » Alors qu'il a le titre américain, c'était parfait pour pouvoir contrer justement cette pop, puisque le public était content de voir KO débarquer à SmackDown.
Ah, oui.
Donc voilà, en une minute, hop, la pop, vous l'oubliez, vous allez me huer comme un bon heel que je suis. Donc ça, c'était bien mené. Et puis au final, voir ce truc se monter, ce triple threat pour le First Contender aux États-Unis, c'est plutôt pas mal. Surtout que c'était compliqué avec ces changements de brand pour les titres, comment on fait. Et ils ont retrouvé en quelques secondes, en deux minutes au plus, le moyen de pouvoir booker un match intéressant pour le main event, ce triple threat, en disant bien, ok, il y a déjà un match pour le titre américain à Payback, et ça se fera après. Donc c'est bien, ils sont dans une sorte de cohérence, ils n'oublient pas ce qui a été déjà fait, ce qui est déjà en place, mais construisent déjà l'avenir, donc ça c'est plutôt bien foutu, et le match fait quand même envie. Hein. Et Sami Zayn, Baron Corbin.
Pas dégueu, on en reparlera en fin d'émission, mais en effet, pas mal du tout. Et comme tu dis, c'est le propre, en tout cas, c'est vrai que SmackDown, généralement, est pas mauvais pour faire ça, c'est de préparer l'avenir, on va dire, de préparer le terrain. Et du coup, on a préparé l'après-payback. Et au moins, on va dire, on a eu la ficelle scénaristique de se couvrir sur finalement, quel est-il à devenir du titre US si Jericho gagnait. Donc, en effet, ça a été prévu par Daniel Bryan, donc, qui nous l'a mentionné. Donc, en effet, pas mal. Et puis, je suis assez d'accord. J'aime bien ce sorte de mini repackaging de Kevin Owens qui a mentionné une sorte de presque de nouvelle gimmick. Il a mentionné qu'il était de Face of America à un moment.
C'est ce qu'il dit déjà depuis quelques semaines, depuis qu'il a gagné finalement à Mania son titre US, dans Arrow. C'est son nouvelle façon d'énerver le public.
Sans qu'il va appuyer là-dessus.
Ouais, carrément. Après, effectivement, comme tu le disais, Sami Zayn arrive aussi à SmackDown. Donc, du coup, on avait beaucoup spéculé. Effectivement, Sami Zayn, ça fait longtemps que c'est teasé qu'il voudrait être à SmackDown parce que ça correspond mieux à son esprit. Et depuis un mois et demi, il se clash sans arrêt avec Stéphanie, donc avec le commissionnaire de Raw. Donc, c'est logique qu'il aille à SmackDown. On pourrait reprocher, les deux sont encore ensemble. On les a déjà pas mal vus feuder ensemble.
C'est la discussion légitime.
Ils vont être encore à un moment donné en train de feuder, mais je pense qu'il y a suffisamment de gens dans le roster pour que ça s'évite. Et j'espère en tout cas qu'ils ne feront pas ce qui a été fait à Raw 2-3 fois, c'est-à-dire les mettre dans des matchs sans aucun enjeu vraiment.
Ça, ce serait bien. Je pense que, comme tu dis, je pense qu'il y a assez de monde pour qu'ils puissent ne pas trop se tourner autour. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un regret. On aurait pu les voir s'éloigner pendant un an, mais bon.
Dans tous les cas, un top heel qui arrive avec une ceinture et qui place direct son personnage et un face du top de la middle card, Sami Zayn, qui est en pleine expansion.
Exactement.
En pleine envol. Donc du coup, pour l'instant, ça commence avec des bons trades pour SmackDown. Hein.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est très positif, cette ouverture. Et on va enchaîner sur quelque chose peut-être d'un peu moins positif, mais bon, il faut quand même que cette histoire se termine. C'est un petit match entre Randy Orton, The Legend Killer, The Viper, qui affronte Eric Rowan avec son nouveau masque absolument effrayant.
Chelou.
Très très bizarre. Comme vous le savez, si vous avez suivi Raw, Bray Wyatt est parti à Raw, manifestement. Enfin, tout du moins, son magnétoscope est parti à Raw, puisque pour l'instant, nous n'avons que des vidéos de Bray Wyatt. Mais bon, toujours est-il que cette histoire un peu entre la Wyatt Family et Orton continue. Un match court et dominé très largement par Randy Orton d'environ 4 minutes. Rowan commence assez fort, mais est finalement très très vite stoppé par Randy qui déploie son arsenal habituel. Son DDT, Hangman DDT depuis les cordes, tentative de RKO, mais les lumières se baissent et justement, c'est une nouvelle cassette de Bray Wyatt qui passe sur le titan tronc. Alors, gna gna gna, tu vas avoir à Payback, ça va chier, dans la maison des horreurs, hein, donc il nous rappelle sa stipulation, il va l'emmener dans les méandres de son esprit, tout ça, tout ça. Les lumières reviennent. Et Eric Rowan en a profité pour se saisir d'un escalier en aluminium. Il assomme Randy Orton avec les escaliers. C'est une disqualification. Finisher de Rowan, cette sorte de full Nelson slam assez sympa. Et donc nous avons un Eric Rowan qui finit triomphant au-dessus du champion. Un angle au final assez classique, hein, à l'approche du pay-per-view, un champion affaibli par les tactiques de heel. Est-ce qu'on pourrait pas finalement reprocher un petit peu à cette draft de nous spoiler un peu le résultat de cette histoire et de nous gâcher cette fin?
Bah, peut-être, effectivement, c'est sûr que c'est compliqué, il y a des chemins croisés entre pour les titres, donc on sait que même si tout peut arriver soi-disant, bon, bah, les titres vont être assez équilibrés, hein. Un titre supérieur, donc ouais, universel mondial dans un show, et un titre secondaire universal et US dans l'autre, donc c'est vrai qu'on peut dire en toute logique, bon, bah, si Wyatt, du moins son magnétoscope, son compte Skype et lui-même son Arrow, se doute que c'est Orton qui va conserver le titre pour que le titre reste à SmackDown. On verra bien. Par contre, là aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'il laisse pas de côté malgré ce shake-up, les intrigues qui sont lancées, donc il est continu.
Ça, c'est bien.
Bon, ben, à voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que tout va résider finalement dans l'intérêt de ces stipulations mystères, la House of Horror, la Maison des Horreurs. Si le match est intéressant et original et apporte un petit plus, même si on se dit que le résultat, c'est Orton qui certainement va garder sa ceinture, si le match en lui-même est cool, ça sera un bon moment. Si le match, par contre, est aussi un flop que l'Ambrose Xylum a été un flop, là, c'est clair que tout ça aurait été à blanc et dommage pour le spectateur. Donc, on verra bien. Par contre, ce qu'on peut se demander aussi, c'est quid de Rowan sans Bray Wyatt ?
Est-ce qu'il ça a va peut-être être un peu avenir compliqué.
Ouais. Ils ont remis sa musique pourrie. Il a un nouveau masque qui est pourri. Son arsenal n'a pas changé. Je pense qu'il va finir rapidement une espèce de jobber un peu balèze sans vraiment saveur.
Non, en effet, je pense qu'il a. Puis vu qu'il a fait son retour sous la bannière de la Wyatt Family, il va vite se retrouver avec un gimmick creux, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça le problème. Je partage un peu à la fois tes inquiétudes et tes espoirs sur ce match qui, on leur souhaite de faire un match original et bon pour ne pas gâcher au final cette rivalité qui aura été quand même. Passionnante pour certains, longue pour d'autres, mais en tout cas qui aurait eu le mérite d'être écrite dans la durée avec pas mal de rebondissements, donc c'est vrai que ce serait un peu dommage.
La vraie question que je me pose sur ce match, c'est est-ce que ça va être un match dans l'arène, hein, donc sur le ring avec des trucs, une sorte de stick edge avec plein de trucs, ou est-ce que ça va être un truc qui va être filmé à l'extérieur, un peu comme ils avaient
qu'on n'a aucun détail, on ne sait pas, la House of Horrors, pourrait imaginer quelque chose dans la cabane de Bray,
qui a brûlé du coup, donc...
Oui, sur les cendres, sur un ring de cendres.
Peut-être qu'il va squatter le Hardy Compound.
Peut-être, ouais. Maintenant qu'ils sont revenus, on ne sait pas.
On verra, mais bon, c'est vrai que on se doute que Orton va garder la ceinture à terme.
On continue, on va enchaîner sur une autre division en quelque sorte, une division qui elle par contre reprend un peu du poil de la bête, ce sont les équipes. Les équipes qui cette semaine nous proposaient un title shot, et oui un match pour le titre entre les Usos et les American Alpha. Donc aucune des deux équipes n'ont bougé pendant ce shake-up, et elles se retrouvent pour un nouvel affrontement pour le titre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un sacré match, un match très différent de ce qu'on avait pu voir par le passé entre ces deux équipes. Vraiment un match sur le modèle du sprint, hein. C'était très très intense. 9 minutes de rush avec finalement on a évité tous les écueils scénaristiques classiques des longues dominations de heel très prévisibles avec le hot tag après donc cette période interminable à laquelle ces deux équipes nous avaient un peu habitués avec Jason Jordan qui arrivait comme un fou furieux. On a un peu renversé tout ça, beaucoup de changements de momentum en début de match, très très rapide avec beaucoup de prises à deux des deux côtés. Et finalement, le hot tag d'ailleurs qui intervient sur Chad Gable, changement de dynamique intéressant, ce qui est assez rafraîchissant, ce qui lui a permis d'ailleurs de montrer l'étendue de lui aussi, de sa puissance et de sa technique avec un enchaînement absolument superbe hein, de German suplex enchaîné, donc sans lâcher son adversaire, deux German suplex de suite. Il balance Jay ou Jimmy, hein, ça je sais jamais. Il attrape l'autre et il place deux exploder suplex sur le deuxième frangin. Et il enchaîne avec un magnifique moonsault que ne renierait pas Charlotte Flair, je pense. Donc super moonsault, simplement deux. Les American Alpha qui enchaînent sur leur Doomsday Bulldog. Mais le tombé est sauvé in extremis par le jumeau Uso. Et on a une petite avance rapide. La séquence finale, j'ai trouvé absolument superbe avec des contres dans tous les sens. Les Uso qui essayent de placer un double suicide dive à l'extérieur du ring, ils sont attrapés de volée par les American Alpha qui font deux souplesses arrière à l'extérieur du ring sur le sol, somptueux. Le tout le monde remonte dans le ring. Chad Gable est cueilli par un super kick. Jordan est balancé hors du ring et les frangins enchaînent sur un splash dans la foulée pour le compte de 3. 1, 2, 3. Les Uso conservent leur titre, donc au terme d'un match vraiment réjouissant. Et bah, les réjouissances ne s'arrêtent pas là, puisque juste après le match, nous avons deux jeunes latinos en jean qui rentrent dans le ring, et nul autre que les Shining Stars qui agressent Gable et Jordan pour marquer de leur empreinte la division tag team post-shake-up. Donc intéressant de souligner d'ailleurs qu'ils n'ont pas été présentés comme étant les Shining Stars, hein, mais comme étant Primo et Pico, je pense, quelque chose qui est assez important pour eux, très important pour eux-mêmes. Donc écoute, avant de te laisser la parole, on va boucler finalement les tag teams pour rappeler qu'un peu plus tard dans l'émission, ce qui est quand même une sacrée annonce, nous avons eu un package vidéo pour nous annoncer qu'une autre équipe allait intégrer la division SmackDown. Et si vous avez la vidéo, vous l'avez deviné grâce aux postures lascives de l'amiral Armbar, c'est le New Day. Et oui, le New Day arrive à SmackDown pour être sûr que nous ne serons pas bootis. Donc voilà, les New Day arrivent à SmackDown. Et puis bah, finalement, on peut se dire que après leur avoir envoyé à Raw, Rhino et Slater, bah, récupérer les New Day et puis potentiellement Primo et Pico, bah, écoute, c'est plutôt une bonne affaire. Qu'as-tu pensé de tout ça ?
Alors, sur le match en lui-même, finalement, tu l'as dit, un match très très bon. Je pense que la semaine dernière, SmackDown, le street fight entre Corbin et Dean Ambrose, c'était le match intercontinental qu'on aurait aimé avoir à Mania qu'on n'a pas eu. Et bien là, c'était le match tag team qu'on a payé à Mania qu'on aurait voulu avoir.
Exactement.
Donc
exactement.
Voilà, SmackDown se rachète hein, dans le weekly par rapport à ces matchs-là. Donc, ouais, très 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 bon match, très rapide, vraiment nickel. Sur l'arrivée des nouveaux, donc Primo et Pico, comme tu l'as souligné, je pense que là aussi ils sont repackagés avec la brand, hein, Shining Stars qui a jamais marché, leur espèce de gimmick où ils vendent des resorts aux Caraïbes, c'était naze, donc là c'est mieux de les remettre d'une autre manière. Par contre, le côté heel agressif, un peu familial et ethnique, est-ce qu'il faut qu'ils arrivent à se différencier des Uso, parce que les Uso sont déjà
évident
sur ce créneau.
Ouais,
donc les Shining Stars, enfin Pico et Primo ont été peut-être des mecs qui ont eu le plus de gimmicks possible. Hein, ils ont été les Los Matadores avant, c'était Primo et Pico avant.
C'est vrai.
Voilà, ils enchaînent
Los
les
Colons
gimmicks.
Aussi, ouais. C'était pas, je sais quoi là.
Ouais, 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 ou alors c'était Carlito. Bref, ils ont du mal à trouver un truc, donc faut qu'ils réessayent. On verra bien si ça prend cette fois-ci. Et puis donc, ouais, les New Day qui débarquent, on s'en doutait, parce que niveau tag team, il y a la grosse star power à Raw. Hein. Les Hardy sont revenus à Mania. Les Revival sont arrivés le lendemain de Mania. Ils ont déjà effectivement Sheamus et Cesaro. Il y a aussi donc
Enzo
and Cass, le club. Donc c'est vrai que niveau tag team, il fallait réinjecter des choses, donc remettre les recordmen, même s'ils sont trois, les recordmen du championnat
pas
tag
n'importe
team
qui
à SmackDown. C'est cool. Donc clairement, ça c'est une bonne
opération.
Est-ce que ça suffira pour redynamiser vraiment la tag team division SmackDown? On verra, ça dépendra de ce qu'ils en font comme toujours. Mais en tout cas, ouais, c'est une grosse, grosse, grosse arrivée aussi dans ce shake-up.
Ouais, clairement, je pense qu'ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin à SmackDown d'un gros nom pour porter un peu la division et puis bah, la remettre un peu sur le devant de la scène. Donc, je pense que c'est en effet une très bonne arrivée. Ouais. Et puis, bah, Primo et Pico, tu l'as dit, il va falloir qu'ils se différencient. Peut-être une carte à jouer, puisqu'on sait que bah, les vaudevillains ne sont plus. Donc, un spot d'équipe heel s'est libéré à SmackDown.
Ouais,
à voir.
On ne peut pas dire que le spot qui est occupé, les vaudevillains, était tellement
il était pas,
présent qu'il fallait quelqu'un pour les remplacer.
Ouais,
donc,
on va dire que numériquement, ils ils ont peut-être une carte à jouer, je pense. Moi, je suis assez confiant, je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose, mais bon, quoi qu'il arrive.
L'histoire ne te donne pas raison. On verra s'ils changent. Et l'histoire, comme je disais, niveau de ces deux catcheurs latinos, est pas très glorieuse. Donc, on verra bien. On verra bien, on verra bien. De toute façon, pour Nudé, c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce qu'à Raw, ils avaient fait un peu le tour, ils avaient
ils ont fait le tour de la question.
Il fallait qu'ils laissent le champ libre aux nouvelles équipes qui venaient d'arriver, donc les mettre à SmackDown, c'était ce qu'il fallait faire.
C'est ça. Et puis, du coup, on parlait des vaudevillains qui ne sont plus. Ça va nous permettre de faire une petite transition sur notre point mid-card de la soirée, parce qu'on a eu, on a eu pas mal de mid-card, pour ne pas dire jobbers, hein, je me refuse, hein, mais bon. Et nous avons Aiden English, qui était dans le ring, une fois n'est pas coutume, hein, ce mardi, et qui nous informe qu'il est à présent seul. Oui, parce que si vous avez suivi un petit peu les news, vous savez que Simon Gotch a été libéré par la WWE. Libéré, donc nous n'avons plus que Aiden English, qui donc il nous fait un speech ultra original, hein, puisqu'il dit que maintenant il est seul et que le spotlight n'est que pour lui. Hein, donc c'est et donc d'ailleurs il demande le spotlight qui descend sur lui et donc pas du tout cliché, pas du tout éculé, hein, comme petite tirade de ville. Et donc il nous reprend sa gimmick de chanteur d'opéra, là, de chanteur de cabaret un peu. Et donc il entame une sorte de petit couplet, sauf que c'est à ce moment-là que la musique d'un certain Perfect Ten, Ty Dillinger, arrive. Donc, intervient. Donc, Ty Dillinger et Aiden English vont avoir un petit match tous les deux. Match très court de 2 minutes, plutôt sympathique, qui a bien fait le boulot. Un squash match glorifié, on va dire. Personnellement, toujours pas fan de son finisher, hein, parce qu'il faut qu'il reste quand même un move de transition d'AJ Styles. Donc moi ça me perturbe un peu, mais bon, c'est on en a eu par le passé, hein, tu me diras, il y a des spears qui sont exactement utilisés en finisher et tout ça, mais bon. Et moi j'avais noté quand même qu'on constate peut-être quand même le boulot que Ty Dillinger va avoir au niveau de la foule, parce que la réaction qu'il a eue n'était peut-être pas à la hauteur de celle de la semaine dernière à Orlando. C'est vrai qu'on était avec une foule ultra marque, hein, de SmackDown Post-Mania.
C'est NXT, Orlando, c'est la maison d'NXT. C'est pour ça que c'est malin de les faire monter à ce moment-là.
Donc en effet, on l'avait noté la semaine dernière, c'était très malin de l'avoir fait débuter à ce moment-là. On se rend compte quand même un petit peu qu'une fois que le public le connaît un petit peu moins, il va y avoir du boulot, il va y avoir du travail. Et on espère quand même pour lui qu'il ne va pas squasher du jobber trop longtemps, parce que c'est peut-être aussi le meilleur moyen de tuer un petit peu tout ça. Est-ce que tu as un petit commentaire sur Ty Dillinger?
Ouais, je pense que c'est toujours pareil, c'est tout simplement ce qu'ils vont en faire, hein, qui va faire la différence. On sait, il a démontré du moins à NXT qu'il avait la capacité de rallier la foule, hein, avec un gimmick un peu étrange mais qui marche. Tout dépend de ce qu'ils vont le mettre dans des storylines, est-ce qu'ils vont développer un peu sa psychologie, c'est ça qui va faire la différence. Après, dans le ring, à noter, il a une énergie qui est assez impressionnante.
Assez communicatif.
Dans sa façon de bouger, il est vraiment très très dynamique. Il y a une intensité en fait dans le ring qui est assez importante. Donc, faut à un moment donné qu'ils le mettent en œuvre avec des gens qui ne sont pas forcément que des jobbers. Ce qu'ils ont bien réussi à faire avec Baron Corbin justement, et ne pas le mettre qu'avec des jobbers et le monter au fur et à mesure, faut qu'il fasse avec Ty Dillinger, qu'il n'enferme pas, c'est un gros risque dans un gimmick un peu à la Dolph Ziggler, de le mec il casse super bien, il est favori de la foule mais il gagne jamais, donc voilà,
attention, en effet,
faut qu'il capitalise dessus, mais vraiment il a de quoi, je pense, Ty Dillinger, d'intéresser, de captiver le public. Pour avoir vu un match NXT où il y avait Ty Dillinger avec ma copine qui regarde le catch une fois tous les 6 mois, elle avait vraiment apprécié sa prestation, parce que voilà, son côté dynamique dans le ring, sa façon de bouger était vraiment communicatif, comme tu dis. Donc il y a du potentiel, encore une fois, est-ce qu'ils vont capitaliser dessus?
On croise les doigts, on espère que ce sera pas une Apollo Crews bis de SmackDown, hein, on espère pour lui, mais bon. Pareil, je pense qu'il y a aussi la place
gimmick,
de faire des choses.
Dillinger,
il y a un vrai gimmick. C'est pas juste je souris et je fais des flips.
Par contre, qu'il trouve qu'il mette peut-être plus en scène son finisher, s'il garde ce tiebreaker.
Ouais.
Ça manque un peu de hype, effectivement, comme tu dis.
Ouais. On fait le tour un petit peu de cette mid-card, on continue, puisqu'on avait un autre match un peu sans emphase, mais bon, qui avait le mérite d'exister. C'était Mojo Rawley qui affrontait un nouvel arrivé aussi, puisque nous avons Jinder Mahal qui est arrivé à SmackDown, tout fraîchement sorti de son coup d'avant-bras sur Finn Balor. Il est donc venu à SmackDown semer le chaos. Écoute, why not, ça nous fait un petit jobber heel qui, au-delà de ses excès d'engagement, reste un worker, je trouve, tout à fait correct, hein, mais bon, donc pourquoi pas. Et on poursuit, en fait, on en profite pour poursuivre bah, l'angle de WrestleMania et de la bataille royale André le Géant. Souvenez-vous, c'était notre final two complètement inattendu de la bataille royale André le Géant à WrestleMania. Rob Gronkowski et dans le public, le tight end de football américain, meilleur pote de Mojo Rawley dans le public. Donc on se doute qu'il va se passer un petit truc. Ça n'a pas loupé. Après un match assez énergique, hein, de un peu moins de 3 minutes, pas forcément désagréable à suivre, Jinder Mahal est envoyé dans la barricade près de Gronk. Et Gronk, qui est bien décidé à se venger de sa boisson renversée de WrestleMania, ne trouve rien de mieux à faire que de lui balancer sa bière en pleine figure. La revanche est donc consommée. Mojo Rawley qui remonte Jinder Mahal dans le ring. Le coup d'avant-bras absolument dévastateur. Ça, c'est du coup d'avant-bras, mais correctement travaillé, on va dire. Et donc, Mojo est super hype. Il a gagné. Il est content. Il célèbre avec ses potes. Et voilà. Un commentaire particulier là-dessus ou pas, ou on va passer à la suite.
On peut passer à la suite, j'espère juste que Jinder Mahal va pas casser la tête.
Ouais, on espère tous, voilà.
Ouais, justement, pas Teddy Linger, j'espère que de la semaine prochaine, Teddy Linger va pas se prendre une commotion cérébrale avec un match à Jinder Mahal, hein, puisque Jinder Mahal a blessé Finn Balor. Donc, ouais. Donc voilà, bon, bah, pourquoi pas. Hein.
On espère. Et donc au rayon, pour finir sur cette mid-card, au rayon des autres arrivées, sachez que, à l'instar de ce qui s'est passé à Raw la veille, nous avons eu des petites vidéos pour nous annoncer les autres arrivées de SmackDown, et nous allons avoir, comme l'annonce l'amiral, Sin Cara qui arrive à SmackDown, donc il fait le chemin inverse de son ami Kalisto, un peu étrange comme move. On aurait plutôt imaginé les voir se réunir, puisque c'est difficile d'imaginer un avenir pour ces deux-là autre que à deux, mais bon, ok.
Surtout que Sin Cara, dernièrement, en Raw, enfin dernièrement, il y a quelques mois, était annoncé comme intégrant le Cruiserweight Division.
En plus, donc, ouais, donc très étrange.
Enfin, Sin Cara, pareil, ça n'a pas trouvé sa place, c'est compliqué.
Donc, bon, remplacement poste pour poste, mais surtout, annonce incroyable, un peu surpris que ce soit fait en vidéo, mais bon, et qu'il en soit ainsi, nous allons avoir la brute bulgare Rousseff qui arrive à SmackDown, et ça, c'est un style, comme ils disent dans le jargon des drafts et des échanges sportifs américains. Nous avons volé Rousseff à Raw. Annonce de Jobber, certes un peu triste, mais personnellement, moi j'ai bien hâte de le voir dans l'environnement SmackDown, avec Talking Smack, avec le temps d'antenne qu'il y a. Donc moi, je suis très content personnellement. Donc voilà, je sais pas si tu as un commentaire sur cette arrivée de Rousseff.
Non, alors du coup, il est annoncé comme bientôt parce qu'il a été blessé dernièrement. À voir quand il va arriver. C'est peut-être pas dessus de suite, mais en tout cas, bon, bah voilà, c'est un heel, mid-card heel qu'il fallait. Hein. Vu qu'il y en a qui sont partis de SmackDown pour aller à Raw, il faut bien l'inverse pour rééquilibrer les forces.
C'est ça, donc, c'est ça.
Donc, ouais, non, ça peut être quelque chose d'intéressant à le voir. Encore une fois, toujours pareil, qu'est-ce qu'ils vont lui faire faire? C'est toujours la grande question. Donc.
Et oui, c'est toujours assez. Oui, c'est ça. De toute façon, tout va dépendre en effet des programmes qui sont prévus pour tous ces gens-là. Mais bon,
par
ça
contre,
fait plaisir.
Il n'est pas annoncé avec Lana. C'est pas Rousseff avec Lana, comme le Miz est annoncé Miz avec Maryse. Là, c'est pas avec.
Tu fais bien de le mentionner, puisque nous allons à présent parler des femmes, puisque voilà, une autre division qui avait besoin à SmackDown d'un petit coup de fouet. La boucle bouclée hein, à WrestleMania avec ce six-pack challenge qui avait couronné Naomi et qui avait finalement fait écho au couronnement de la toute première championne, comme on avait pu le dire, hein, de SmackDown, qui avait été aussi titrée Becky Lynch après un six-pack challenge à Backlash en septembre dernier. Donc on avait vraiment l'impression qu'on avait fait un petit peu le tour et que à force de tout mélanger, on n'avait plus trop de rivalité. Donc le shake-up arrive à point nommé et Shane McMahon, cette semaine, avait décidé de faire une allocution dans le ring pour faire état de la division féminine et de parler de l'avenir de la division féminine. Donc il est dans le ring, il nous annonce que il va pas tirer la couverture à lui plus longtemps, il va tout de suite inviter l'ensemble du roster féminin de SmackDown. Et c'est là où on voit que la maigreur hein, du roster, puisque 4 femmes seulement s'avancent dans le ring, à commencer par la championne Naomi qui nous a fait une superbe entrée, suivie de Natalia, Carmella, flanquée de James Ellsworth, et Becky Lynch. Donc c'est là où on se dit qu'il va falloir du lourd, hein, parce qu'évidemment, on a perdu la veille, on a perdu Alexa Bliss, à mon grand regret, et on a perdu Mickey James, qui reste quand même une légende et une superbe catcheuse, hein, six times Women Champion. Donc, Shane nous tease les acquisitions qu'il a faites. Contre qui a-t-il bien pu échanger tout ce beau monde? Et donc, il nous parle d'une fille de Hall of Famer, une second generation superstar, donc une fille de catcheur. Et donc, on entend les wouh dans le public, que forcément, ça s'impose. Il va nous annoncer Charlotte. Et non, que se passe-t-il? C'est Tamina, la musique de Tamina qui retentit. Ah, le public ne sait pas trop quoi en faire. Tamina, donc, il s'avance, l'air méchant, donc manifestement, elle sera heal, hein, le body language ne trompe pas dans ces cas-là. donc, Tamina, fille de Jimmy Superfly Snuka, hein, c'est ça?
Ou ouais, c'est ça.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, donc ce sera un petit peu la Nia Jax de SmackDown, hein, un peu dans son positionnement. Shane ne peut pas nous laisser comme ça. Shane est un peu blagueur cette semaine, donc il nous dit non, c'est pas tout, j'ai une autre acquisition, c'est Charlotte Flair, évidemment, on s'en doutait tous. Charlotte Flair est là, la reine est là et vient réclamer donc son nouveau royaume et ses nouveaux sujets. Donc Charlotte Flair est là, elle ne s'abaissera pas à aller jusqu'au ring, hein. D'ailleurs elle reste dans ses habits de lumière en haut de la rampe, fait un petit tour sur elle-même et puis s'en va. Donc Charlotte est là pour un petit peu à l'instar du New Day pour les équipes, il fallait une figure forte porter un petit peu la division féminine de SmackDown qui avait un peu du mal à exister, non pas par sa qualité technique dans le ring, on avait souvent des beaux matchs, mais il manquait peut-être une figure de proue. Et bah là, avec la
quelle
reine,
figure, on a... ouais, figure royale,
on
hein,
a,
effectivement.
On a quelque chose.
Ce qui est fort, on s'en rend compte encore une fois, elle est apparue dans cet épisode de SmackDown peut-être 30 secondes à l'écran, et en 30 secondes,
elle
sans,
a crevé
sans
l'écran,
rien
hein.
dire, juste elle a crevé l'écran, elle a salé sa place, genre je suis la reine. Et il y en a une qui doit transpirer sévère dans ses collants fluo, c'est Naomi, parce que de voir arriver quelqu'un comme Charlotte dans la division, tu dis, ok, le titre, je vais bien le regarder, parce que je sens que je vais pas gardé longtemps. Hein.
Ouais,
Ça, c'est
fais-toi
clair.
bien, ouais,
Ouais.
fais, tu t'es fait plaisir à WrestleMania, je pense que tu fais bien de le souligner, on va probablement passer aux choses un peu plus sérieuses,
C'est
et
clair.
donc Charlotte arrive pour faire sa loi, je pense aussi. Hein.
Ah,
Et
complètement.
Écoute, moi, Tamina, je ne suis pas forcément mécontent. Tu vois, quitte à choisir entre quelqu'un, entre Tamina et Nia Jax, je préfère largement avoir Tamina. Donc, je ne suis pas forcément mécontent d'avoir elle pour renforcer un peu les heels
Oui,
du côté de...
le problème, c'est que Tamina, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand? C'était à l'époque de la Team Bad, quand Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks sont montées de NXT. Donc, c'était il y a longtemps, quoi. C'était il y a 2 ans,
C'était il y a longtemps, mais je pense que
quasiment.
ça
Donc,
se
du coup,
repackage vite et bien, ça.
non, là qu'elle était habillée, son attitude, etc., elle est le même gimmick, je pense, qu'avant. Hein. C'est pareil, ils n'ont jamais réussi à trouver un bon positionnement qui marche avec elle. Donc, ok, bon, ça fera une heel un peu physique, un peu dominante, comme tu dis, un peu une image de Nia Jax, même si elle est
Voilà,
moins présente physiquement.
il en fallait une, je
Pourquoi
pense.
pas? Pourquoi pas? Après, Charlotte aussi, donc très très bien, un gros point fort comme tu l'as dit, comme aussi Kevin Owens, qui est le champion universel au règne le plus long de l'histoire, hein, et même s'il n'y a
Eh
eu
oui,
pas
eh
beaucoup, il faut
oui.
le souligner. Donc, des gros poids lourds qu'il y avait à SmackDown. Maintenant, il faut
C'est
trouver
ça.
quelqu'un à mettre en face, Charlotte. Alors, évidemment, on pense à Becky Lynch,
Ah oui, ça
notre
semble
four
s'imposer.
horsewoman. Maintenant, il va falloir effectivement qu'il fasse un truc intéressant sans trop rapidement et facilement lui donner le titre et
Ouais.
reproduire ce règne implacable qu'elle a eu à Raw pendant plus d'un an. Donc, du coup, à voir s'ils arriveront à renouveler la chose. Et puis, bon, de toute façon, on verra d'ici là, il y aura certainement d'autres choses qui arriveront, d'autres montées peut-être d'NXT,
Qui
comme une
sait, qui
certaine
sait?
japonaise létale et moi, un match qu'on
Que
n'a jamais vu,
je...
Asuka
Ouais.
Charlotte, je veux voir ce match un jour.
Que je suis
Oh là là.
d'accord qu'on verrait bien à SmackDown, je suis assez d'accord. Bon, pour être parfaitement complet, sachez qu'au rayon des arrivées vidéo, eh bien, chez les femmes, nous avons eu justement, on en parlait tout à l'heure, Lana, qui donc est présentée sans Rusev, donc dans une gimmick de danseuse, manifestement. Bon.
Ça sent pas bon,
Ça sent pas très
hein.
très bon, je
Dans
suis
le ring,
d'accord.
elle a un peu catché. Ben, elle avait catché. Il y a un gros match bordel au WrestleMania 32 en kick-off, je crois. Elle était dans le ring. C'était pas
C'était
terrible.
pas... Non,
À
ça amène de l'intérêt
NXT,
pour sa tenue, mais...
à NXT, elle avait fait 2-3 trucs, mais c'était pas terrible non plus. Donc dans le ring, elle part de très loin.
Ouais.
Et là, un gimmick basé sur la sexitude et le côté danse. Ça rappelle les heures sombres de la division féminine. Donc voilà, attention,
Moi, j'ai...
là il y a un
Ouais.
gros piège. Hein.
J'ai un peu peur d'une arrivée face avec des feux contre Carmella autour de trucs un peu foireux. Moi, je le vois bien. Mais
ça
bon,
va
ça,
être
on
un
verra
truc
bien.
un peu à la Summer Rae, hein. Le problème, c'est que ça va
Ouais.
finir un peu comme ça. Donc, faut faire gaffe à ce qu'ils vont faire, encore une fois. Hein.
Exactement. Et donc, bah, pas de Sasha Banks non plus, hein, parce que le public avait clamé We want Sasha, hein, parce qu'évidemment, on était à Boston.
Oui.
Contrairement à Sami Zayn, Kevin Owens, ils n'ont pas fait l'erreur, enfin, en tout cas, je trouve, mais d'avoir gardé Charlotte et
Non.
Sasha Banks ensemble. Donc, c'est aussi un point positif. Nous allons enchaîner avec Nakamura et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler donc qui était dans le ring pour une petite promo de très standard de heel complètement aveuglé par lui-même, égocentrique, hein, qui donc il reprend d'ailleurs complètement le phrasé d'AJ Styles, hein, il dit que c'est SmackDown, il a construit SmackDown, complètement perdu dans son monde, perché Dolph Ziggler, et qui dit mec perché dit Nakamura manifestement, puisque c'est Nakamura qui l'interrompt avec sa musique reconnaissable entre mille. Alors lui par contre, contrairement à Ty Dillinger, il a bien vécu le passage du post-mania, parce que sa pop est absolument assourdissante, mais bon, on parle quand même d'une superstar d'un autre calibre. Pop de dingue, Nakamura arrive, une fois le public calmé. Parce que alors le public a chanté le titre, le theme song de Nakamura pendant une bonne minute. Le public est calmé. Ziggler, hein, qui dit non mais attends. Donc c'était assez habilement fait, hein, ce petit jeu avec le public. Mais qui est-ce que t'es? Non mais pour qui tu te prends? Et est-ce que tu peux m'expliquer qui t'es? Évidemment, le public ne se fait pas prier pour chanter des Nakamura, Nakamura. Nakamura qui fait sa pose habituelle, hein, sa sorte de révérence, il remercie le public. Et il en profite pour demander le micro. Alors là, le doute m'habite, comme on dit. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, nous avons deux phrases, juste deux phrases de Nakamura avec son gros protège-dents qui nous dit You wanna know who I am? My name is Shinsuke Nakamura, comme ça. Et donc voilà, bon, avec des expressions faciales ultra exagérées, un accent à couper au couteau. Franchement, c'est drôle. Le public adhère. Le public est en feu juste pour ces deux phrases. Et donc ça s'arrêtera là. Ziggler tente un super kick contré par le phénomène japonais qui le défie de lui porter un deuxième coup. Mais évidemment, le show-off. Voilà. Mais le show-off en bon heel qu'il est se carapate et tentera peut-être sa chance une autre fois. Donc voilà, un petit segment qui semble planter le décor pour peut-être une première rivalité de
Oui.
Shinsuke dans le roster. Comment est-ce que tu vois tout ça?
Bah, c'est ce qui est logique, hein. La semaine dernière, cette semaine, le Dark Match, donc le match après l'enregistrement télévisé à SmackDown, c'était les deux fois Nakamura versus Dolph Ziggler. Donc, très certainement, effectivement, une première rivalité. En plus, athlétiquement, ça peut être intéressant dans le ring, hein. Les deux sont des bons. Sont des gars qui font des chouettes matchs et qui savent bien vendre des coups autant qu'ils
C'est
donnent qu'ils
surtout ça.
reçoivent. Donc, on peut y avoir des très bons bumps de la part de Ziggler, etc. Après, voilà, de toute façon, tu l'as dit, hein, le risque avec Nakamura, c'est faire durer sa hype sans forcément qu'il fasse des promos, parce que là, ce qu'il a fait ce soir, c'est un peu le maximum de ce qu'il a montré en un an de NXT. C'est très compliqué pour les Japonais d'être fluent en anglais. Je pense qu'ils vont le faire
Surtout quand tu
bosser, hein.
gardes ton protège-dents, hein, parce que c'est vraiment, ça a vraiment pas l'air facile d'articuler avec ce machin, hein, qu'il a dans la bouche, mais bon,
Ouais.
je pense que ça fait partie aussi de la folie du personnage, quoi.
Oui,
Donc
c'est ça. C'est ça.
donc
Et de toute façon, ils
il...
vont capitaliser là-dessus, hein, ce qu'ils ont fait à
Oui.
NXT pendant son règne, hein, le côté gimmick, les expressions exagérées, tout ça gestuel qui est désaxé, son espèce de hype folle qu'il a.
Ouais, qui finalement, c'est basé sur sa folie, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc du coup, non, ça peut être très bien, le faire démarrer contre Dolph Ziggler, ça peut être très bien. En plus, c'est un bel adversaire de choix pour Dolph, qui a du mal à trouver son rythme en tant que heel, hein.
Ouais. Ah,
Donc
ça
là,
c'est sûr.
c'est pas une feud, genre on va te donner à manger à Nakamura pour l'installer dans la division. Non, c'est les deux peuvent en sortir grandis si ils gèrent bien le truc. Moi, j'ai envie de voir un match entre les deux avec du temps dans un pay-per-view où vraiment, en termes de
Complètement.
catch, on a des très belles choses dans le ring et qui racontent une histoire. Donc là, ils ont l'opportunité peut-être de le faire. Est-ce qu'ils vont y aller ou est-ce qu'ils vont en faire juste un truc de weekly, bâclé en 2 semaines? Je croise les doigts pour que ils pensent en faire un beau match de pay-per-view.
Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que j'ai assez hâte de voir un Kinshasa vendu par Dolph Ziggler. Donc, en effet, je suis assez impatient de voir ça. Et puis, bah, on s'assure des vraies réactions face heel. Je pense que là, Dolph Ziggler va
Ouais,
être du coup bien hué
c'est
face à un
ça.
adversaire de ce genre-là. Donc, je pense que comme tu dis, c'est bénéfique pour les deux adversaires,
Ouais,
je pense.
d'autant plus que Nakamura a un background quand même. Il a fait l'entraînement de Jiu-Jitsu, etc. Parce qu'il a fait un peu de MMA. Dolph Ziggler, il vante pas mal depuis un an déjà maintenant
Ouais,
son background
et catcheur, quoi.
de champion de
Ouais,
lutte, hein, lutteur. Donc il y a
voilà,
moyen de
lutteur.
faire des trucs vraiment basés sur le côté technique du catch,
Ouais,
vraiment des
comme
prises, etc.
mat wrestling et tout, ouais.
Exactement, qui peut être super intéressant et très différent du produit qu'on voit en général à WWE. Donc j'espère qu'ils vont aller dans ces directions-là.
Pourquoi pas?
Ça peut être bien. Et puis vraiment en profiter pour que Dolph Ziggler se fasse un truc complètement dégueulasse dans le ring. Et
Ouais, puis
justement,
faut
comme
qu'il
tu dis,
explose, là.
voilà, pour que son statut de heel passe à un autre niveau, une autre vitesse. Donc là-dessus, des promesses intéressantes. Encore faut
Encore une
parler.
fois,
Est-ce qu'ils
des
vont
promesses.
être
Eh oui.
remplies? Est-ce qu'elles vont être accomplies? On verra bien.
On va voir. Et nous arrivons au main event de la soirée. Le main event qui est donc cette triple frite, comme disent nos amis de Ketchup, pour
C'est
la
Ringside qui
place,
dit.
the
C'est le
number
Ringside.
one contender pour le titre des États-Unis de Kevin Owens. Un match, bah écoute, un match assez dingue. Un match de, je reprends mon petit compteur, de 17 minutes. Avec 5 minutes, allez, 5-3 minutes qu'on pourra peut-être considérer d'un peu sage, avec bon, du triple threat assez classique, des enchaînements de 1 contre 1 avec des KO hors du ring. Mais finalement, tout va s'enchaîner à partir du tournant du match qui est Sami Zayn qui va enflammer le match et qui va contrer à un moment Baron Corbin en plaçant un superbe Exploder Suplex qui est vraiment pas évident pour un adversaire aussi grand par rapport à Sami Zayn. Exploder Suplex dans le coin du ring, il part pour son Hell of a Kick, mais il est pris, intercepté dans sa course par AJ Styles qui place un magnifique tiebreaker. Je me suis Mais donc le tiebreaker qui n'est pas suivi d'un tombé puisqu'il se fait lui-même dans la foulée décapité par une corde à linge de Baron Corbin absolument monstrueuse. On fait une petite avance, les protagonistes se relèvent, on a une Blue Thunder Bomb incroyable de Sami Zayn sur AJ Styles. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir ces deux-là catcher ensemble.
Ouais.
Mais c'est simplement deux, Sami Zayn qui place AJ Styles sur la troisième corde, mais Corbin arrive qui du coup place Sami Zayn sur ses épaules et du coup AJ Styles qui était lui-même sur la troisième corde tente d'en profiter pour mettre un phénoménal forearm sur Sami Zayn, sauf que Sami Zayn du coup contre en se baissant et emmène Baron Corbin dans un petit paquet. C'est simplement deux, superbe superbe enchaînement encore une fois des trois hommes. On a après un deep six, superbe prise aussi de Baron Corbin sur Sami Zayn, sauvé in extremis par AJ Styles, simplement deux. Et AJ Styles qui en profite du coup pour enchaîner sur un 40-50 splash sur Baron Corbin, c'est sauvé par Sami Zayn. L'action est absolument haletante, on a des near falls dans tous les sens. Et là, on arrive sur ma séquence préférée du match. On a Baron Corbin et Sami Zayn dans les deux coins opposés du ring. AJ Styles qui commence à faire des corners, sorte de corner splash, de corner coup de corde à linge sur des deux côtés. Un sur Baron Corbin, un sur Sami Zayn. Il veut revenir. Non, pardon. Un sur Sami Zayn, un sur Baron Corbin. Il veut revenir sur Sami Zayn. Sami Zayn esquive et c'est lui du coup qui va aller mettre du coup des corner splash des deux côtés. Et après Baron Corbin qui esquive, qui met ses corner splash. Et là, c'est Sami Zayn qui place une big boot sur Baron Corbin. Sami Zayn qui. Attends, c'est qu'est-ce que je dis? Non, c'est oui, c'est ça. Non,
Un
c'est
level
oui, c'est
kick en
Baron.
fait.
Ouais. Alors, Baron Corbin, voilà, j'en perds mon latin tellement c'était la folie. Baron Corbin qui met une big boot sur Sami Zayn. Sami Zayn qui titube et qui met une big boot sur AJ Styles. AJ Styles qui lui met en retombant un pele kick. Donc là, les trois hommes sont complètement KO. Sami Zayn qui, du coup, qui se prend un Styles Clash. Sauf que Corbin, lui, non, qui contre le Styles
Oui.
Clash. Corbin qui lui se prend du coup un Hell of a Kick qui l'envoie hors du ring. Et c'est à ce moment-là que AJ Styles profite de cette distraction, on va dire, pour placer son phénoménal forearm sur Sami Zayn. Cette fois, ce ne sera pas sauvé. C'est le compte de 3. Je sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais en tout cas, la fin du match valait le détour. AJ Styles remporte ce match. Eh ben,
Même tout le
sacré
match valait le détour, hein. Pas que la
match.
fin, vraiment, comme tu as dit, un très très bon main event de Weekly, hein, mettant en scène un des nouveaux arrivants Sami Zayn et donnant au public qui ne regardait que SmackDown un aperçu du talent qu'il a dans le ring et de cette énergie aussi qui est assez folle. Belle construction, hein, tout le début, Baron Corbin, il y a une grosse phase de domination où AJ Styles et Sami Zayn se sont ligués pour abattre donc le Lone Wolf. Donc il y a eu une double souplesse de
Oui.
Corbin sur Styles et Zayn en même
Ouais,
temps
c'est
qui
vrai.
essayaient de le souplexer à deux mais ils se sont fait
Ouais.
contrer. Donc
Le spot du Big Show.
ouais, exactement. Donc c'était vraiment très bien mené. Des coups magnifiques, ouais, la Blue Thunderbomb était juste de toute beauté. Le Deep Six aussi. Enfin voilà, vraiment il y a du gros show qui peut être fait avec Sami Zayn, on le voit. Et le voir avec des gens comme AJ Styles, c'est un bon plaisir. Et moi j'avoue que ce soit Sami Zayn ou Kevin Owens, la perspective de les voir catcher contre des mecs comme AJ Styles, contre Nakamura aussi.
Bah c'est ça.
Il y a du potentiel dans le ring. À Raw aussi, on va dire. Hein, et on va
Certes.
pas dire que c'est qu'à SmackDown, à Raw également, il y a des très belles combinaisons à faire. Mais là, du coup, avec Sami Zayn et Kevin Owens qui sont arrivés, rien que ces deux drafts-là, waouh, il y a de quoi faire des très 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 bons matchs. Donc là, c'était un bel
Et oui.
exemple, c'est un bel exemple. Et donc AJ Styles, first contender pour la prochaine ceinture, c'est pas mal. Hein, ça lui donne effectivement, ça lui laisse toujours autour d'une ceinture, pas forcément la principale. Quand on a une star power comme ça, c'est compliqué. Une fois qu'elle a touché un titre mondial, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Et bien là, de le remettre autour donc de la ceinture américaine qui est fièrement portée par Kevin Owens, qui est aussi un top quart d'heure hein, de WWE, bah c'est bien. Je trouve que c'est
Ouais.
le bon choix et j'ai hâte que Kevin Owens gagne contre Chris Jericho et qu'on ait ce match en pay-per-view.
C'est
Kevin
ça.
Owens, AJ Styles pour la ceinture américaine. Ça peut être
Ça
très,
peut.
très, très, très bon.
Ça peut être assez dingue. Et oui, est-ce que
Ouais.
c'est et finalement, est-ce que c'est pas ça la meilleure décision de cette semaine? C'est, bah, on l'avait dit dans le menu du jour, mais la ceinture du main event qui est peut-être plus celle que qu'on pourrait croire. Franchement, voir finalement AJ Styles qui a fait incontestablement les 10 derniers mois les plus fous la WWE. De le voir après avoir enchaîné des programmes pour le titre mondial descendre sur cette ceinture US face à un adversaire du calibre de Kevin Owens, difficile de pas les imaginer comme étant la rivalité phare de l'émission pour les semaines à venir, quoi. Donc
Ouais,
c'est
j'espère qu'ils prendront le temps aussi de bien monter un truc au micro, la rivalité entre les deux, parce que les deux micros peuvent très bien donner. Ça peut instaurer aussi, continuer l'espèce de micro turn qu'on avait senti la semaine dernière de AJ Styles qui serre la
Oui,
main
je pense qu'on y va tout
honorablement
droit.
à Shane McMahon. Donc là, avec Kevin Owens qui est clairement heel à 300%, ça peut continuer à l'installer dans vraiment ce nouveau face de SmackDown. Hein,
Complètement,
donc
complètement. Ouais, c'est
ça va
vrai
être
que la
intéressant.
semaine dernière, la semaine dernière, on avait hésité, on s'était dit, est-ce que c'était pas une sorte d'au revoir déguisé qu'on regrettait
C'est
presque, hein, parce
ça,
qu'on aurait
ouais.
bien aimé, on aurait bien aimé, et d'ailleurs, on n'est plus obligé de parler au conditionnel maintenant, mais de voir bah, cette sorte de face turn naturel, finalement, sous couvert d'amour de SmackDown, quoi. C'est marrant, cet sentiment d'appartenance à SmackDown, qui peut y avoir aussi bien, d'ailleurs, dans les réactions du public, souvent, ce qui a pas forcément à Raw, c'est assez marrant. On s'était fait la même remarque avec Irem le lendemain de la draft, donc en juillet dernier, et c'est assez réplicable à cette semaine de voir la façon dont les réactions du public par rapport aux annonces de Shane McMahon, de Daniel Bryan sur
Bah, c'est
euh,
logique et c'est intelligent à WWE. C'est-à-dire que du côté de Raw, on a quand même la commissionnaire qui est une heel, Stéphanie.
oui.
Vince, qui est le PDG heel, il apparaît à Raw. Triple H, qui est heel, qui est le CEO, apparaît à Raw. Alors qu'à SmackDown, on a deux chouchous du public. Shane, le
C'est
rebelle de la
ça.
famille McMahon. Daniel Bryan, qui est le darling du WWE Universe. Et puis, SmackDown était quand même l'underdog. Et on sait que les
C'est
gens,
ça.
quand c'est bien monté, sont pour l'underdog. Donc, ça
Voilà,
permet
et
de
donc,
fédérer ce côté. Ok, on a des
exactement.
choses à prouver et on va y arriver ensemble. Ils incluent le public. Donc, du coup,
Ouais.
c'est tout à fait logique qu'il y ait cette espèce d'esprit de corps, finalement, esprit un peu grégaire, qu'il peut y avoir le public smackdownien envers le show bleu. Et donc, ils ont raison de
Ouais.
capitaliser là-dessus. Et
Non, mais
AJ
voilà,
Styles,
c'est
en tout
vraiment
cas,
sympa.
aujourd'hui, a tout pour devenir le top face poster
Ah,
boy de
complètement,
SmackDown. Et
complètement.
c'est vers quoi ça va et c'est plutôt cool.
Ouais, complètement. Et en même temps, à côté de ça, j'ai été content dans l'introduction de voir que on passait pas d'un face turn violent,
Non.
gnangnan. AJ Styles conserve quand même, c'est it's about me, tu vois. Ça,
C'est
c'est
ça, son
ça.
côté égoïste, égocentrique.
Et je pense que c'est pas incompatible avec un quand même quoi qu'il arrive ce face turn ou dire, écoute, ce SmackDown c'est moi, mais je suis
Ben,
respectueux du show
on le voit
et
bien à Raw,
voilà.
hein, le top face de Raw est quelqu'un de très égoïste, hein, Roman Reigns, et ça se passe très bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème.
Pas de discussion sur Raw ici, nous restons entre gens
Ça,
civilisés
c'est,
de
pardon, déformation
SmackDown.
professionnelle.
Non, allez, on va passer au mot de la fin sur ce superbe main event. On va passer au mot de la fin, comme toujours. Bah écoute, tu le sais, ta note, ton top et ton flop, s'il te plaît.
Je vais faire à l'envers du coup, flop, top notes.
Oui.
Mon flop, c'est pas forcément spécialement sur SmackDown, mais c'est sur le shake-up. Mon flop, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure un petit peu au début, le manque de hype et le manque de mise en scène qu'ils ont mis autour de ce shake-up. Je trouve qu'il y a vraiment une occasion manquée qui est déplorable. Ils auraient dû monter ça en sauce, ils auraient dû faire des segments backstage, ils auraient dû faire des trucs, même teaser des vidéos dans la semaine sur YouTube de WWE, des discussions entre Kurt Angle et Daniel Bryan.
Ouais, je comprends pas.
Bref, voilà, je trouve que c'est un peu passé à l'as. Tout est fait dans le ring, soit avec des petites vidéos pour dire oh, il y aura lui bientôt, ou alors des mecs qui arrivent et les commentateurs qui font ah, ben tiens, regardez qui est arrivé. C'est dommage, ça aurait pu rajouter un petit côté événementiel extraordinaire de ce shake-up qui manquait. Donc, ça,
Ouais.
petit flop global hein, sur le Raw et le SmackDown de cette semaine. Mon top, ça va être sur bah, deux personnes qui sont arrivées là, Charlotte et Kevin Owens, qui, de par leur présence, leur charisme et leur façon de jouer, place en personnage, place le côté top star qu'ils ont et domination et heel, comme ça, quoi. Et ça, avoir des lutteurs qui, en plus, en ring, font des très belles choses, arrivent à placer leur personnage juste, ouais, qui ont ce hit factor dont on parle. C'est superbe à voir. Et là, c'était une belle démonstration, un beau cas d'école qu'ils nous ont fait ce soir. Donc, mon top va à ces deux lutteurs fraîchement arrivés de Raw SmackDown. Et ma note, eh bien, je dirais un 4. Un 4 parce que ben, finalement, on a eu du beau catch hein, quand même ce soir.
Écoute,
Quelques
oui.
segments intéressants aussi. De la cohérence sur la ceinture américaine. De la cohérence aussi sur la ceinture WWE Championship. Donc, du coup, ouais, non, plutôt bien mené pour un exercice qui n'était pas facile avec tout ça. Ses croisements et ses plannings et agenda
C'est
croisés là,
vrai.
c'est
Ouais.
donc ils sont vraiment bien sortis.
Eh ben, ça me fait bien plaisir tout ça. Bah écoute, mon flop, j'avais un peu le même que toi. En effet, je regrette aussi cette absence de mise en scène. Qui les arrivées étaient quoi qu'il arrive enthousiasmantes. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des bah de juste des arrivées surprises comme ça. Donc c'est bon, quoi qu'il arrive, c'était cool. Mais je suis d'accord, je regrette un peu. Et finalement, je vais peut-être enchaîner sur ta conclusion pour donner un deuxième flop. C'est finalement peut-être je sais pas le flou ambiant que même maintenant, à cause de ce shake-up et Payback, en fait, combinés, les deux ensemble font que on a l'impression de se retrouver un peu le cul entre deux chaises pendant 3 semaines. Et on va se retrouver avec un pay-per-view un peu interbrand pour solder des histoires qui risquent d'être finalement, du coup, ultra spoilées bah, parce que, bah, à cause de ce shake-up, quoi. Donc, un petit flop d'ensemble aussi, on va dire, sur le timing. Et moi, mon top, en fait, je vais le donner. Bon, il y a eu plein d'excellents moments, mais je vais le donner au résultat, en fait, du shake-up pour SmackDown, parce que on n'a pas vraiment résumé un petit peu les mouvements, mais au final, je trouve que ce shake-up est très très intelligent pour SmackDown, et je suis pas loin de penser que ce sont un peu les vainqueurs, moi, de ce move, parce que, écoute. On a peut-être été un peu moins servi au niveau des arrivées NXT, enfin, et encore, parce qu'il y a eu Nakamura versus et Ty Dillinger contre, bah, du coup, à Raw, on a eu The
Revival,
Revival
ouais.
sur une belle arrivée, et ils ont eu les Hardys, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même eu Nakamura et il y a eu quand même eu Nakamura. Mais après, sur le shake-up en tant que tel, si on regarde en termes de qualité, et je pense de ce qui va se fondre le mieux dans le moule de SmackDown, on perd dans le top de l'affiche, dans le top 3, il y a quoi? Il y a Bray Wyatt,
Le Miz.
Dean Ambrose. Et le Miz qui fait mal, mais on va dire que catchesquement
Alexa
parlant,
Bliss
et
aussi,
Alexa
on peut dire.
Bliss, voilà. Donc Miz, Ambrose, Wyatt, Alexa Bliss, bon, ok, c'est dans l'ensemble, il y a du bon talker, il y a du divertissement, mais on récupère quand même à côté de ça Kevin Owens, Sami Zayn, Rusev, Charlotte,
New Day.
c'est New Day.
Des
pour moi,
champions,
c'est du
beaucoup de champions, hein, des gens qui savent,
récupère,
on sait qu'ils savent tenir une ceinture
ouais.
et faire un règne intéressant. Donc,
exactement,
ça, c'est une
récupère,
belle qualité, ouais.
On récupère du très costaud dans le ring, aussi bien avec une ceinture que sans. Donc moi, je suis très très content de ce move et je pense que on va bien se marrer à SmackDown qui se retrouve avec un roster d'une qualité quand même assez exceptionnelle. Quoi.
Donc, ouais, mais je pense qu'à Raw aussi, on peut avoir la même analyse. Hein. C'est, le shake-up, de toute façon, est intéressant pour nous, spectateurs, parce qu'on va avoir de nouvelles rivalités. Depuis un an à peu près que la draft a eu lieu, bah, du coup, ça redistribue un peu les cartes. Donc, de nouvelles opportunités de storyline.
C'est ça.
Si elles sont bien gérées,
bien.
C'est intéressant. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un show qui a été lésé par rapport à l'autre.
Non.
Et on peut que se réjouir de certaines perspectives. Après, est-ce qu'elles auront lieu ou pas? Est-ce qu'ils leur donneront la place qu'elles méritent? On verra bien, hein, comme je disais.
Et oui, la suite dans les prochains numéros.
Et
bon,
oui.
En tout cas, moi, ma note pour finir, c'est 4,25. Mais ouais, pareil, j'ai été très, très content de cette émission. Et je pense que, surtout, je suis content de... Bah, en tout cas, je suis plein d'espoir sur tout ce qui peut se passer maintenant à SmackDown à partir de cette semaine. On va, je pense, bien se marrer. Donc, un bon show. On a fait le tour, mon cher amiral. Donc, c'est le moment pour moi de vous dire que vous pouvez nous retrouver. Alors là, je vais être à la hauteur du IRM sur PodCloud, sur iTunes, sur YouTube, sur la chaîne Les Cahiers du Catch. Mais vous pouvez aussi évidemment nous questionner, nous liker, nous partager sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook CatchUpCDC, sur le Twitter @CatchUpCDC aussi, c'est ça, hein.
Tout à fait, c'est ça.
Vous pouvez venir nous voir sur le forum des Cahiers du Catch, discuter avec nous. On sera une joie de vous répondre sur tous les médias que vous déciderez d'utiliser. Continuez à être de plus en plus nombreux. On va bientôt avoir les 200 abonnés, je crois, sur Facebook. C'est super.
Sur YouTube.
Sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et puis, voilà, mettez-nous des pouces bleus, des commentaires, et on sera très contents. Amiral, merci beaucoup pour cet intérim avec
un
grand brio.
C'est un grand plaisir de pouvoir commencer cette nouvelle vague pour SmackDown qui s'ouvre avec ses nouvelles arrivées.
Exactement. Et puis moi je remercie nos auditeurs, nos auditrices d'être toujours avec nous et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même show. Allez, ciao tout le monde, salut.
Salut.